Voilà, je vais faire une présentation de Louis Monnier, que je connais son travail, mais personnellement non. Donc je vais essayer de vous le présenter. Moi-même, je suis photographe, vidéaste aussi. Je travaille beaucoup sur la gastronomie et les vins. Et donc ici, il y a de quoi faire, effectivement, à Bordeaux. Donc je vais essayer de faire un petit résumé de son parcours.
Merci.
Vous me direz. Alors, je vais essayer de.
Pour
de
le vin, j'habite à côté de Sancerre.
On va pouvoir parler.
De la provocation.
J'ai essayé de vous présenter Louis Monnier avec mes yeux, en tout cas, ce que j'en sais et ce qui m'a paru important pour situer son travail et sa démarche depuis quelques années. Et j'aurai aussi des questions. Les vôtres aussi, donc nous avons une bonne heure hein, pour
tant que vous voulez
pour présenter le travail de Louis. Voilà.
Attendez, est-ce que quelqu'un pourrait amener le livre sur les philosophes qui est dans la même collection ? Ouais. C'est mon petit-fils. Petit-fils Théo, qui est un grand amateur de lecture. Ah, c'est avec son frère qui est là, Thomas.
Alors Louis, vous êtes né à Montélimar en 43, en pleine guerre.
C'est pas... Ouais, fin de guerre.
43
ouais.
Ouais. Après votre scolarité à Valence et à Genève, vous suivez une formation à l'École supérieure de journalisme de Paris. À 22 ans, vous réalisez le portrait de Romain Gary, qui est votre premier portrait photographique publié au journal Les Nouvelles Littéraires, avec un entretien de l'auteur que vous rédigez également. À 23 ans, vous exposez pour la première fois. On rentrera dans le détail après. En 68, 25 ans, vous avez, vous devenez l'un des collaborateurs de l'agence Gamma.
Non, c'est bien après.
Ah.
C'est pas grave. J'ai monté ma propre agence, en fait, assez vite.
Ça s'appelait
APPM.
Voilà, c'est ça. Mais on reprendra. Bon, en tout cas,
je passe chez Gamma après.
Après. Alors, en tout cas, c'est les informations qui sont... Voilà.
Ouais.
Depuis lors, vous êtes reconnu pour vos portraits de personnalités artistiques et littéraires, publiés dans de nombreux journaux et ouvrages. De même, on vous connaît pour vos prises de vue réalisées lors de la célèbre émission Apostrophe, animée par Bernard Pivot. En 81, à 38 ans, vous fondez votre propre agence de presse. Là, c'est ça.
C'est tout à fait voilà. Agence Photopresse Monnier.
Voilà. Avec près de 18 000 portraits.
Oui, j'ai photographié à peu près 18 000 écrivains, mais on ne compte plus quand on arrive à un certain niveau.
Voilà.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, que j'ai photographiés plusieurs fois dans des circonstances différentes.
Fort de ce travail de portraitiste littéraire, on vous surnomme l'œil des lettres, qui a d'ailleurs donné un titre à l'un de vos ouvrages.
Qui était paru aux éditions S. C'est un ouvrage un peu phare. Il y a Louis Calafert en couverture. Et puis à l'intérieur, il y a beaucoup de photographies qui sont reproduites et dans Écrivain et dans Philosophe.
Vous êtes également investi depuis plusieurs années comme photographe de la villa départementale Marguerite Yourcenar à Bailleul, dans le Nord, qui est une résidence d'écrivains européens.
Tout à fait. Là, il y a une salle extraordinaire. Si vous passez dans ce coin-là, un jour de porte ouverte de la villa, il y a 180 photographies 30-40 qui ornent les murs de la salle principale. C'est tout à fait étonnant parce que vous rentrez là-dedans et les regards sont presque insupportables au bout d'un moment.
À ce jour, vous avez publié de nombreux ouvrages sur les écrivains, sur les villes et aussi sur les pays, parmi lesquels on peut citer, donc j'en ai relevé quelques-uns, Visage de la littérature en 90, L'œil des lettres en 97, Paris, la balade en 97, La symphonie des chefs, donc c'est les chefs d'orchestre, voilà, en 2004, Visage de la philosophie Les philosophes d'expression française de notre temps en 2005.
Chez Arléa, oui.
Voilà. Vietnam, impression en 2008. Philosophe de bachelor à Derrida, donc celui justement que vous avez sorti. Et aujourd'hui, en fait, cette rencontre est sur le livre qui vient de sortir sur les écrivains, justement, de Paul Éluard à Marguerite Duras, publié aux éditions Erol.
Oui, attends, je rajoutais dans les livres auxquels je tiens beaucoup, il y a un livre sur Blois en noir et blanc, il y a un livre sur Orléans en noir et blanc, et le livre sur Blois a été un grand succès, parce que les gens ont l'habitude de la couleur, et là, ils ont accepté... d'acheter et de répandre cet ouvrage qui est vraiment auquel je tiens beaucoup et je trouve assez bien réussi.
Il est encore disponible ?
Il en reste peut-être quelques-uns, mais parce qu'il y a eu une réimpression. Mais là, je ne sais pas s'il y en a encore. C'est un très très beau livre.
D'accord. Alors j'ai fait une dizaine de questions, de grosses questions. Donc on va essayer de voir justement votre parcours en détail. Expliquez-nous d'où vient cette passion de la littérature et enfin de la photographie dont vous esquissez quelques mots dans l'introduction de ce dernier livre. Comment vous êtes arrivé à la photographie ?
C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire au lycée classique à Valence, latin-grec. Et je lisais beaucoup, j'ai eu des profs de lettres extraordinaires. C'était un lycée classique laïque et qui était avec des profs de lettres absolument excellents, qui nous encourageaient à la lecture et qui était passionnant. C'était un professeur de philo fabuleux qui s'appelait Bull, qui est décédé maintenant, qui après est devenu prof de fac à Nice avec Clément Rosset, qui vit toujours et qui fait des très beaux ouvrages et de très bons ouvrages. Et donc ça m'a encouragé à continuer à aimer la littérature après le lycée. Je n'ai pas fait des études supérieures extraordinaires, donc j'ai été à l'école supérieure de journalisme, que je n'ai pas fini. Je me suis fait beaucoup d'amis et de rencontres au bistrot, le Bonaparte. J'allais beaucoup au Bonaparte, plus qu'en cours. Mais pour un journaliste, parce que c'est quand même du journalisme, un journalisme littéraire, ça m'a beaucoup servi. En fait. Et cette rencontre, la première rencontre donc, que j'ai... avec Romain Gary a été un sésame extraordinaire parce que ça m'a permis de pénétrer aux nouvelles littéraires qui étaient, un peu, quand on se présentait après chez les écrivains comme venant des nouvelles littéraires, c'était mieux que TF1 maintenant. C'est-à-dire que toutes les portes s'ouvraient. Et même, j'ai eu un accueil formidable, que ce soit chez Bazin, que ce soit chez Sabatier, que ce soit chez, tous les grands écrivains m'ont ouvert leurs portes. Il n'y avait pas de difficulté parce que je me présentais pour les nouvelles littéraires. Mmh. Et en plus, ils les publiaient. Les nouvelles littéraires étaient lues par tout le monde. Et à l'époque, il y avait quand même quelques journaux littéraires formidables. Il y avait les Lettres françaises, il y avait donc les nouvelles littéraires, il y avait le Figaro littéraire, mais je ne crois pas que ça s'appelait le Figaro littéraire. C'était le supplément littéraire du Figaro qui était remarquable. Il y avait des très grands critiques. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des supports qui publiaient ces photos.
Ça. Mais vous ne me disiez pas. Vous me dites pas comment vous êtes arrivé à la photographie.
Ah ben la photographie c'est tout simple. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui était notaire, mais qui était en fait un très bon photographe amateur, qui développait lui-même ses photos et qui m'a... je l'ai perdu, j'avais 14 ans, mais il m'avait offert un premier appareil photo, un Weberflex, un truc comme ça. Et donc je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de photos de son vivant et après. Et ensuite, il y a eu une autre étape. J'ai habité un an à Genève. Et à Genève, le change était à 1,15. C'est-à-dire qu'on avait les appareils photo à peu près à 30 ou 35% moins chers. Et à Genève, j'avais fait la connaissance des gens qui travaillaient avec le CIRIC, qui était l'agence catholique de photographie qui vendait à des tas de très très beaux journaux, qui publiait de très belles photos noir et blanc. Et c'est là que j'ai rencontré, il y avait un prêtre qui s'occupe, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui m'a amené à vraiment à perfectionner ma prise de vue. Et mais ce qui est très, très la personne très très importante que je ne connaissais pas, mais qui a été vraiment un élément formidable pour moi, ça a été Gisèle Freund. Parce que dans le Bordas de la littérature du XXe siècle, et il y avait quelques photographies de Joyce, de Valéry, de Bernard Shaw, de très très grands écrivains. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et en fait, dès l'école de journalisme, j'ai fait beaucoup de photographies pour illustrer mes papiers. Et après, c'est les photos qui illustraient l'article.
C'est ça. Combien de temps cette école vous avez fait
de journalisme? Oui,
ça a duré combien de temps?
J'ai resté un an et demi.
Un an et demi.
Je n'avais pas le temps après. Et non, j'ai eu cette chance extraordinaire. Puis j'avais un peu de sous parce qu'il faut quand même de l'argent. Même à l'époque où la photographie coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Par exemple, travailler en argentique maintenant, il faut se prendre pour un milliardaire parce que c'est très très cher. Et même maintenant, je fais mes tirages moi-même. Mais déjà, les pellicules, le papier, tout est très très cher. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont envie en fait de faire de la bonne photo argentique sont rebutés par un litre de révélateur, ça coûte 29 euros. Vous faites 5 litres et puis
Il y a 20 ans c'était
rien. Et puis les pellicules étaient quoi, un franc quinze, je sais pas, c'était le prix d'une baguette de pain une pellicule, tandis que maintenant on réfléchit. Moi, je vois, avant de travailler avec la Hasselblad, il faut vraiment. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose d'important? Donc, alors là, je prends la Hasselblad avec les pellicules 6-6. Sinon, c'est le Leica. Et quelquefois même, quand ce n'est pas du tout important, j'ai un tout petit numérique qui me donne une photo témoin de ce que je veux. Mmh. Je ne suis pas numérique du tout et je ne le regrette pas. Et de moins en moins parce que. Donc moi j'ai la chance, j'ai 1 million de négatifs chez moi, ce qui pose des problèmes terribles, puisque vous voyez, une salle comme ici avec que des rayonnages, vous avez que des dossiers. Et alors je reprends les dossiers depuis le début et je me rends compte qu'il y a énormément de photographies qui n'ont pas été mises à la disposition de mon agence ou des livres. Alors j'ai retrouvé par exemple toute une série sur Edgar Faure, qui était quand même un personnage important à l'époque, en noir et blanc, des vrais portraits. Et donc je les reprends, je les scanne pour pouvoir les mettre en ligne et à l'agence ou des archives.
Si vous voulez, Louis, on va en reparler pour qu'on essaye de... Parce que j'ai cette question, entre autres, de façon plus précise. J'aimerais bien que vous me parliez de cette rencontre avec Romain Gary, qui a été vraiment le point crucial de votre commencement et de votre passion, en fait.
Eh bien, d'abord, j'avais lu Romain Gary et j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'étais sur le boulevard, je raconte toujours cette histoire, mais sur le boulevard Montparnasse avec un ami journaliste, Paul Sigaud, et il me dit, c'est Romain Gary qui vient de passer. Je course Romain Gary, j'ai dit, monsieur Romain Gary, demain matin, pour mon journal, je viens vous faire un interview et des photos. Puis un peu étonné de ma propre hardiesse, je lui dis, vous voulez voir ma carte de presse? Il me dit, non, je vois bien que vous êtes un vrai professionnel. Et en fait, c'était le premier. Et j'ai eu cette chance formidable que Les Nouvelles Littéraires, lorsque j'ai amené André Bourin, qui était Monsieur Bourin et après est devenu Monsieur Jeanne Bourin, parce que sa femme a été plus connue que lui, qui a accepté de publier l'article et les photos. Et ce jour-là, c'était assez extraordinaire parce que Romain Gary avait sur sa table... Les Nouvelles Littéraires sur lesquelles il y avait écrit l'inadmissible Romain Gary. Pourquoi l'inadmissible Romain Gary? C'est parce qu'il avait fait poser nu Jean Seberg dans une cage à oiseaux, et ça avait fait un scandale pas possible dans la presse parisienne. Et donc j'ai fait la photographie de Romain Gary avec le journal sur sa poitrine, et donc elle est passée dans Les Nouvelles Littéraires, ça a amusé beaucoup de gens, évidemment. Et puis Romain Gary, je l'ai revu après... dans l'émission de Suffert, parce que j'ai suivi les grandes émissions littéraires. Je suis allé, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tous les vendredis soirs sur le plateau d'Apostrophe, photographier les gens qui passaient, parce qu'il y a eu des gens très très importants qui sont passés. Il n'y a pas eu que des gens importants, parce qu'il fallait que... Bernard Pivot était bien conscient que pour pouvoir se maintenir sur la chaîne de télévision, il fallait que ça soit aussi une émission un peu populaire aussi, pour que la chaîne accepte de continuer. Et alors j'ai, à cette époque-là, le vendredi, je photographiais donc les écrivains sur le plateau, juste avant le début de l'émission. Avant le début de l'émission, j'allais dans mon laboratoire, je développais les films et je faisais des tirages qui étaient exposés dans les grands magasins parisiens, le Printemps, les Galeries Lafayette, le BHV. Alors ça a été un apport d'argent formidable qui m'a permis d'avoir un très beau local à Paris, rue Martel. C'était devenu un local formidable où je suis resté plus de 20 ans. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais j'avais très peur que chaque fois que Pivot disait « j'arrête », c'était comme un couperet, parce que quand vous touchez beaucoup d'argent, après, il faut, si ça s'arrête d'un seul coup, c'est la catastrophe aussi. Enfin bon, c'est des détails.
L'émission a duré 15 ans ?
Oui, à peine.
Une quinzaine d'années, à peine.
Donc vous avez travaillé. Parce que ça a fait 10 ans, puis après, il a fait d'autres choses.
D'accord. Et justement, sur le plateau, vous avez fait des photos de plateau, mais vous avez fait aussi des photos en studio ou in situ à l'extérieur. Pour vous, vous vous adaptez sans problème ?
Aucun problème. Ça ne me gêne pas. S'il y a une belle lumière dehors, j'essaye que les visages, ça soit, qu'il y ait une douceur. C'est-à-dire que je ne prends pas quelqu'un sous le soleil ardent qui tombe sur le crâne, hein, parce que sinon c'est affreux. Mais avec des bonnes réflexions, on a des très très, avec des très belles lumières qui existent, surtout en ce moment, par exemple. Dès qu'il fait beau, on a des lumières très douces qui aident beaucoup les visages.
Est-ce que ce premier portrait de Romain Gary vous a vraiment engagé auprès des écrivains et à devenir portraitiste ? Est-ce que c'est vraiment ce portrait qui vous a donné cette impulsion et,
Non, j'avais envie de photographier les écrivains, mais ce portrait donc m'a fait rentrer au Nouvel Littéraire comme pigiste.
D'accord.
Et alors, comme les photos étaient publiées, que les Nouvelles Littéraires me demandaient de faire étaient publiées, je suis devenu le photographe du Seuil pendant un grand moment, et puis d'autres maisons d'édition. Et alors ça a permis justement d'aller chez les écrivains, puisque la maison d'édition me donnait le feu vert. C'est pas si simple d'aller voir ces grands écrivains. Certains, même, il y a des prix Nobel, etc. Il fallait qu'il y ait vraiment un sésame.
Comment ça se passait ? Vous téléphoniez ? Vous restiez une journée, une demi-journée ? Comment ça se passait avec les écrivains ?
Je téléphonais. D'abord, ça se passait par l'intermédiaire de l'attaché de presse. Il y avait des attachés de presse extraordinaires au Seuil, comme Anne Zuber, des femmes très cultivées, pas du tout l'attaché de presse qui fait la promotion du chocolat machin. Non, c'était des femmes cultivées. Il y avait Marianne Pini chez Gallimard, qui était une femme extraordinaire. Toutes ces femmes-là, elles avaient lu, elles étaient cultivées, elles avaient une vraie connaissance littéraire. Et donc, moi, je m'entendais très bien avec elles. Parce que pour elles, le livre, c'était pas un produit. Et ça, toute la différence avec beaucoup actuellement de femmes qui s'occupent des livres.
Tout à fait.
Ça, c'était très important. Et il y avait une amitié qui se créait. Et souvent, elle me dit, tiens, tu devrais aller voir un tel, c'est vraiment bien. Ou bien, lorsque Bernard de Fallois me faisait venir et me disait, tiens, avec Bourgois, il y a Richard Brautigam qui va arriver. Je ne savais pas qui c'était, Richard Brautigam, parce que ce n'était pas un Français. Il me disait, c'est très important, il faut que tu y ailles. Et j'y allais.
Et donc, comment ça, vous alliez souvent chez les
souvent,
écrivains
souvent, ou même à la maison d'édition.
D'accord.
Et donc, la prise de vue idéale, c'était... vous arrivez... Je vais vous raconter celle... je suis allé chez Henri de Monfred. Ça, c'est bien André Bourin qui m'avait dit, il faut aller photographier Henri de Monfred. Il vient de publier encore un nouvel ouvrage. Et donc, je sonne. J'avais pris rendez-vous, bien sûr. Je sonne. Il ouvre la porte, il dit rien. Il y avait trois marches. et puis il y avait la pièce, et il s'en va vers son piano, et il se met à jouer pendant un quart d'heure. Et là, une fois qu'il a arrêté de jouer, il me dit « Vous ne trouvez pas qu'on se connaît mieux ?» C'est pas beau, ça. C'est génial.
C'est vrai, ça m'est arrivé comme ça au Sénégal, pour photographier autour du lait, justement, chez les Peuls. Et en fait, pendant une heure, on avait le rituel de la taïa, le thé, avant.
Ah, c'est génial.
Exactement, c'est exactement ça. Et là, il y a ce lien qui se fait, doucement. On se regarde, on se parle. Et
on entre en communication, voilà, avec la personne.
Exactement.
Et évidemment, le visage change complètement. Parce qu'il avait quand même un visage émacié. C'était un homme qui avait fait tout ce qu'on peut imaginer. Et puis j'ai tous ces photos, d'ailleurs, je les vois. J'en ai fait quelques-unes à son piano, évidemment. Puis quelques photos où Et puis j'ai retrouvé j'avais fait la connaissance bien des années plus tard de son petit-fils. Et son petit-fils est un garçon formidable. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais il a vraiment aidé à la promotion de l'œuvre d'Henri de Monfrède, qui est quand même un immense écrivain, voyageur.
Est-ce que vous aviez aussi une façon d'aborder le portrait, une vision bien définie, suivant les supports, avec des impératifs suivant justement les nouvelles littéraires ou dans d'autres revues?
Non, pour moi, c'est peut-être ce qui m'a permis de durer, parce que vous savez, quand vous vendez pendant 45 ans des portraits d'écrivains, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de règle. La règle, chez moi, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est suivant la rencontre, la personne. Et évidemment, moi, j'aime les photos très nettes. Et puis, on essaye de rentrer dans l'esprit de la personne, de rentrer dans son univers. Et c'est ça qui est important. Et quand on a fait une photo qui est bonne techniquement, mais si on n'est pas rentré dans l'univers, c'est pas très intéressant.
Parce qu'aujourd'hui, en numérique, on en parlera tout à l'heure, mais souvent on a tendance à regarder ce qu'on fait pour voir
c'est une catastrophe.
Si on continue ou si on s'arrête. En argentique, c'est pas le cas. Donc comment vous procédiez, vous sentiez, je dis ça, c'est aussi au présent, hein, vous continuez à travailler, j'imagine. Vous arrêtez parce que vous sentez que vous avez fait le tour, que c'est vous l'avez eu. Est-ce que Comment vous travaillez ?
Oui, le gros problème du numérique, c'est que vous faites votre photo, puis vous regardez ce que vous avez fait. Ça, c'est la catastrophe.
C'est pas obligé, hein ?
Oui, enfin beaucoup. C'est pas obligé. Beaucoup de photographes, je les vois. Enfin, ceux qui le font pas, tant mieux pour eux. Mais parce que Gisèle Freund m'a dit une chose que je l'ai rencontrée pas mal de fois, et elle me disait toujours : Louis, il faut imaginer la photo que tu vas prendre. Si on n'imagine pas la photo, même très très rapidement, même si on n'a pas l'idée de ce qu'on va faire, c'est pas une photo. Et elle avait raison.
Quand vous dites ça, c'est voir la photo avant de la faire.
Oui,
c'est ça.
Et je vais vous dire, quand j'allais en Afrique aussi, j'ai fait pas mal de travail pour Afrique Industrie, Afrique Agriculture, à l'époque, le groupe de Breteuil. Et je savais, quand j'ai envoyé par les pellicules, sur telle pellicule, je disais, c'est la 6 qu'il faut tirer. Ou la 12, je sais que c'est celle-là. Parce qu'on l'a senti. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et alors, vous savez, quand on prend quelque chose, maintenant, il y a une évolution. Bon, parce que moi, quand je vais chez un écrivain, j'installe de la lumière, un seul blad, tout ça, ça fait du bruit, il y a de la lumière. Mais au bout d'un moment, si la conversation est réussie avec l'auteur, ou un artiste, ça peut être un cinéaste comme René, ça peut être des gens comme ça que j'ai photographié, eh bien, il oublie l'appareil photo, le bruit, il oublie la lumière, il oublie les flashs, il oublie tout du moment qu'il vous arrive à le persuader que ce qu'il vous dit vous intéresse. Et comme moi, je suis très, très curieux, il sent bien que ça m'intéresse. Et j'ai retenu beaucoup, beaucoup de choses que les écrivains m'ont racontées. Et même, je vais vous raconter une histoire. Je photographie Elie Wiesel pour Le Seuil un jour. Et puis, on est interrompu. Je ne sais pas, il y a une télévision qui vient. Enfin, le photo était à peu près fini. Et puis, 20 ans après, on se revoit. Mais on a repris la conversation qu'on n'avait pas terminée. Ça, c'est génial.
Super, ça.
Et c'était l'histoire, je me souviens encore, l'histoire de son ami qui était consul en Turquie.
Est-ce que ça vous est arrivé de louper des photos ou de ne pas ressentir quelqu'un, parce que ça peut arriver, hein, c'est, et de le savoir même avant que le contact n'arrive pas à se faire. Donc les photos non plus.
C'est-à-dire qu'il faut être, par exemple, cette photo de Simenon là, qui est là, que toutes les photos qui sont là, sont, sauf celle de Céline, ni de Giono ne sont pas à moi, mais celles-là sont toutes à moi. Quand je veux vous raconter l'aventure Simenon, il y avait une attachée de presse extraordinaire, encore une, qui s'appelait Simone Dorian, dont le mari s'occupait du prix du roi du Maroc, je sais plus comment il s'appelait, ce prix. Enfin. Et elle m'avait dit, il faut que tu ailles voir Simenon. Alors j'ai dit, bon. Donc c'était au moment où il avait publié ce livre sur cette histoire terrible où sa fille s'est suicidée. Donc il raconte ça dans son livre. Et donc je vais le voir. Et elle m'avait dit, tu sais, il n'a pas très bon caractère, etc. Enfin bon. Donc j'étais prévenu. J'avais bien lu le livre. Je m'étais bien documenté sur Simenon. Et donc j'arrive chez lui à Lausanne, accueil glacial. Et il me dit, bon, faites votre portrait, puis vous partez, hein. Ah bon, d'accord. Je lui ai dit, mais oui, mais attendez, j'ai deux ou trois petites choses à vous dire avant. C'est qu'il y a deux jours, j'étais chez votre belle-fille, avec vos petits-enfants. Ah, c'était plus pareil. Du coup, on a commencé à parler. Après, et puis, il s'est avancé vers sa collection de pipes, tout ça. J'ai fait les photos que j'ai voulu, etc. Je suis resté 2h30. Et entre-temps, il m'avait dit quelque chose de très, très émouvant. Il me dit, vous voyez, c'est là que j'ai dispersé les cendres de ma fille. C'était sous l'arbre qui était en face de sa fenêtre, de la photo que vous voyez là. Et on a discuté. Ça s'est très, très bien passé. Mais vous voyez, si vous avez peur, vous êtes foutu là. Hein. mais j'avais bien préparé cet entretien photographique, on peut appeler ça comme ça. Et j'ai été très, très touché lorsque la presse a annoncé le décès de Simenon et que j'ai entendu qu'on avait dispersé ses cendres au même endroit où celles où il est, où les cendres de sa fille avaient été dispersées. Là, on y va de sa larme, là, parce que c'était très émouvant. Quoi. Ça, c'est des gens immenses, quoi.
Oui, vous avez plein de souvenirs, de rencontres, j'imagine.
Oui, mais puis puis beaucoup sont passés dans la bonne humeur, la gentillesse. Il y a beaucoup d'écrivains chez qui j'ai été invité à déjeuner. Il y a eu des moments formidables, quoi.
Pour vous, c'est quoi la bonne photo de portrait?
Ah, si je savais. C'est la photo qui montre vraiment l'esprit ou l'âme de la personne. Si vous avez, regardez la photo de Jean-Philippe Toussaint, le regard est bon, les yeux sont bien ouverts, le port de tête est bon, l'expression de la bouche est intelligente. C'est un vrai portrait, quoi. C'est quelque chose que, quand on le regarde, on s'en détache pas tout de suite. La photo de Beckett, c'est spécial parce que d'un personnage tellement étrange que c'est. Mais j'étais vraiment préparé. Et ça. Mais bon, moi, j'ai fait beaucoup de photos d'Antoine Blondin, que je considère comme un très grand écrivain. Monsieur Jadis, c'est quand même un des livres phares de notre époque. Et Philippe Jacoté aussi, le poète. Parce que vraiment, on a la chance d'avoir actuellement encore de très nombreux poètes de très grande qualité. Et il faut lire Philippe Jacoté, il faut lire, Zeno Bianu, il faut lire tous ces bons poètes qu'on ne connaît pas assez. On va se dire, ah zut, celui-là, après, c'était bien ce qu'il écrivait, et puis on l'a pas lu pendant qu'il était vivant, quoi. C'est quand même important, quoi, de lire les écrivains vivants aussi.
Parce que la photographie, ça, justement, pour vous, c'est aussi laisser une trace par rapport à la littérature, avec un grand L.
Moi, je suis au service de la littérature. C'est-à-dire, quand je fais un livre, par exemple, pour Blois, c'était Jean-Jacques, mon grand ami Jean-Jacques Brochier qui dirigeait le magazine littéraire avec qui j'entretenais des relations extraordinaires. Chaque année, deux ou trois fois par an, j'allais chez lui à Saint-Loup-des-Vignes, dans le Loiret. Et puis on parlait, et je lui dis qu'est-ce que t'as lu de beau, qu'est-ce qui est intéressant. Et alors, il me racontait, il me dit, lui, tu devrais voir, c'est pas mal du tout. Et je faisais ma liste, je faisais ma provision de prospection littéraire. Parce que, donc c'est très important de... Comment dirais-je, de savoir qui on va voir, quoi, quand même.
Et vous écriviez aussi, vous faisiez des articles, en fait, photos et textes.
Au début.
Au début,
après,
seulement.
J'ai pas...
D'accord.
On m'a demandé d'écrire mes souvenirs, je le ferai peut-être.
Vous photographiez en noir et blanc trois quarts du temps, a priori, c'est ce qui est dit.
Oui.
Pourquoi
exemple,
ce choix?
Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le plus coloré. Mais... parce que je trouve qu'en couleur, ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'intéresse, c'est pour un portrait qui est une espèce de monochromie. Il y a une photo que vous avez tous vue, que j'ai faite, qui était affichée sur les murs du monde entier. C'était la photo de Florence Aubenas quand elle était prisonnière en Irak. C'est une photo, on a l'impression qu'elle est noire et blanc, et en fait, c'est une photo en couleur, mais presque monochrome. Et c'était, ça a beau, je pense que ça a aidé à sa libération, quoi, parce qu'on sait bien que les otages, aujourd'hui on a vu, qu'est-ce qui fait qu'on peut libérer un otage? C'est parce qu'on fait un bon chèque, il faut connaître la personne à qui il faut donner, etc. Mais les autorités, si vous voulez, quand il y a une pression sur les autorités, il y a un moment où ils disent « oh là là, il faut qu'on les fasse libérer, sinon ça ne va pas aller ». C'est très... Enfin, tout le monde le sait, quoi. Et malheureusement, ceux qui les prennent en otage aussi...
Justement, quand vous parlez de portraits, il y a une photographie mythique réunissant Sioran, Eliade et Ionesco.
Ah oui,
et vous pouvez nous parler de cette photo?
Oui, il faut remonter un tout petit peu. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de photographier plusieurs fois Ionesco, Eliade, qui était un... Comment dirais-je, et Sioran. Donc ces trois-là, je les avais photographiés individuellement et tout. Et lorsque Pierre Belfond a publié, je ne sais plus, une anthologie de la littérature roumaine, etc., il a réuni ces trois grands écrivains. Et la photo devait se passer par rue Durnard, mais rue de la Petite Boucherie, je crois que ça s'appelait, là où il avait... Et j'ai vu, c'était sinistre, la salle où ça devait se passer. Alors... J'ai usé d'un peu de mon autorité et j'ai demandé à ce qu'on aille place de Fürstenberg. Et du coup, j'ai donc réalisé cette photographie qui est devenue effectivement mythique. Quand j'arrivais, parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé en Roumanie, les gens disaient « c'est lui qui a fait la photo ». Et puis alors, elle a été reproduite en affiche dans toutes les librairies roumaines. Et quand j'ai fait une grande exposition à l'Académie de Bucarest, la télévision passait en boucle. C'était hyper sympa, cette photo, et annoncer l'exposition. C'était... Parce que c'est là, quand même, le grand... Comment dire, ce sont les trois plus grands écrivains roumains. On oublie toujours un peu Virgile Georgiou, que j'aime beaucoup. Mais à l'époque, il y avait une telle tension contre lui, injustifiée d'ailleurs, qu'on n'a pas pu mettre Virgile Georgiou. Je pense que... Enfin, bon... Vous savez, c'est très compliqué.
Et quand vous parlez d'exposition, votre première, justement, exposition à 23 ans, parlez-nous de cette première exposition.
C'était très sympa parce que donc, j'avais fait des tirages, j'avais une vingtaine de photos, et c'était au bistrot des Halles. C'était donc en face de la Samaritaine, il y a une petite rue, il y avait un bistrot là. Et j'ai eu le plaisir de... Donc Jean d'Ormesson est venu, c'était tout jeune lui. Et je ne savais pas ce que c'était qu'une exposition, en fait. Et j'avais un grand ami qui est décédé maintenant, qui était peintre. Et j'arrive donc au bistrot et il avait tout installé. Il me dit, parce qu'une exposition, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une façon de mettre quelqu'un à côté d'un autre. Ce n'est pas du tout l'alphabétique. Il faut que les regards correspondent. Il faut que... Ben, si on met Malraux à côté de Beckett, ça marche. Mais si vous mettez Malraux à côté de quelqu'un qui a une personnalité apparente beaucoup plus faible, ça ne marche pas. C'est là où j'ai appris à installer une exposition. Mais une des plus belles installations dont je me souvienne, c'était... donc j'avais des assistants qui tiraient les photos et tout, parce que je n'avais pas le temps de tout faire, parce que je rencontrais entre 3 et 5 écrivains par jour. C'est pour ça que je suis arrivé à ce nombre phénoménal
3 à 5.
De 18 000 écrivains. Et donc j'arrive au... Là, c'était la première fois que le Grand Palais accueillait le Salon du Livre. Et j'arrive, et en haut de l'escalier, vous savez, il y avait... un carré où il y avait 100 portraits d'écrivains qui avaient été récupérés par un de mes assistants. Et ils avaient fait un carré de... C'était extraordinaire. Oh, c'était du bonheur d'arriver. Ils m'avaient fait une très belle surprise. C'était un très beau souvenir, ça.
Justement, si on revient par rapport à l'agence Gamma, parce que quand même, l'agence Gamma était une agence parisienne... Une phare, hein, qui a été très importante. Parlez-nous de cette aventure.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais un peu peur de la conjoncture économique. Bernard Pivot avait arrêté son émission. C'était donc beaucoup d'argent qui ne rentrait plus. Et je me suis dit, il faut que je parte. Je ne vais plus être indépendant. Donc je suis parti avec armes et bagages chez Gamma. Et j'étais quand même content parce qu'un million de négatifs, c'est quand même intéressant.
D'accord, vous avez emmené votre patrimoine, en fait.
Et alors, je suis arrivé dans une époque un peu difficile parce qu'il y a eu l'histoire d'Ayana où il y avait des photographes qui avaient fait les idiots. Mais ça m'a aidé. J'ai rencontré certaines personnes très, très intéressantes.
Parce qu'en fait, moi, j'avais l'information que vous étiez rentré chez Gamma vraiment 2 ans après sa création. Donc,
j'ai pu tenir le coup pendant très longtemps.
Très longtemps, indépendant. Oui, 80, oui.
Parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas que la photographie. Il faut... Puis j'ai eu de la chance, je n'avais pas de représentant. J'étais complètement atypique. Une agence, vous vous rendez compte, sans représentant. Uniquement les journaux téléphonés. Mais ça a été une... Ça m'a donné... une idée plus internationale de la vente des photos. Parce que ces grandes agences, elles ont le sens de la vente à l'étranger, que je n'avais pas. Je vendais un peu de temps en temps, comme ça, par hasard, une photo. Mais c'était pas... C'est très important, la vente à l'étranger.
Ouais. Justement, vous avez fondé votre propre agence.
Oui.
Donc, juste après avoir été chez Gamma
Avant.
Donc, il y a un décalage.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je vais vous dire, pourquoi j'ai fondé mon agence, je n'avais pas du tout envie d'avoir une boîte à moi, ce n'était pas ça. Mais il y a eu un moment où il y a eu cette fameuse loi Cressard qui faisait que quand un journal achetait une photographie, par exemple, il achetait 100 euros une photographie, il devait payer... Le mois de congé, et il devait payer un 13e mois. Ce qui fait que la photo qui payait 100 euros leur revenait 180 ou 170. Donc ils ne voulaient plus d'indépendants. Et alors j'ai dit, comment je fais? Et donc j'ai créé une société pour pouvoir leur facturer en TVA. Alors ça entraîne, c'est des choses très compliquées.
D'accord. Donc vous avez monté une société avec combien de personnes, en fait, qui s'occupaient de votre patrimoine?
Après, j'avais un tireur, quelqu'un qui s'occupait des archives, qui répondait au téléphone, des choses comme ça. Mm-hmm. Parce que j'étais pas souvent là, moi, finalement.
C'est ça, une entreprise... Vous avez 5-6 personnes?
5.
5 personnes?
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein.
Ah, oui, oui. Aujourd'hui, justement, donc vous avez toujours cette agence.
C'est une structure juridique.
Et comment ça se passe? Parce que quand vous êtes passé à l'argentique, donc au tirage, hein, vous aviez une négative, donc vous faisiez des tirages selon les commandes, j'imagine. Oui. Et comment ça se passe depuis une quinzaine d'années par rapport au numérique? Vous avez numérisé tout.
Ah, c'est-à-dire qu'on numérise les négatifs ou les diapositives, et puis on les envoie par Internet.
D'accord, donc, mais vous ne mettez pas en... parce que j'ai vu que vous n'aviez pas, en tout cas...
J'ai pas de site.
Pas de site, hein, qui référence ou qui montre votre travail.
Non, parce que si on regarde Google, on voit.
Ah, très peu. D'accord. J'étais surprise.
Mais il n'y a pas de photos, non.
J'étais surprise.
Il faut aller voir donc, l'agence Rue des Archives qui commercialise.
C'est ça. Parce que en fait, j'imaginais peut-être justement un site qui montre.
Non, mais je veux pas retomber là-dedans. Je veux pas vendre moi-même. Si je vends moi-même, si on me demande des photos pour un livre, c'est moi qui les prépare,
oui,
bien sûr.
Tout à fait.
Mais j'ai pas du tout envie d'avoir les journaux qui téléphonent.
C'est votre agence qui s'en occupe.
Non, moi, c'est l'agence Rue des Archives qui vend les photographies, enfin qui vend les droits d'exploitation des photographies.
C'est ça.
Parce que je ne veux pas, je veux pas.
Et comment vous référencez le million d'images? Enfin,
c'est par ordre alphabétique. C'est par ordre alphabétique.
Alphabétique.
Et c'est numérique. Enfin, il y a des numéros de dossier, et puis on se réfère et tout.
Parce que c'est important, comment vendre l'image aujourd'hui, en fait, c'est la vraie question.
Mais maintenant, on ne vend plus du tout comme ça. C'est-à-dire justement, ils ont des sites, et les gens vont voir sur les sites ce qui les intéresse. Mais moi, je n'ai pas besoin, puisque l'agence a. Donc, dans le monde entier, si on veut une photo de Beckett, si on veut une photo de... Ou alors, ça peut être vendu aux Indes, ça peut être vendu aux États-Unis, ça peut être vendu partout.
D'accord. C'est par auteur,
mais c'est pas moi.
On vous demande par auteur.
Je ne veux pas m'embêter avec ça.
Alors, j'ai une autre question. Par rapport aux portraitistes, en fait, aux photographes, j'ai référencé plusieurs photographes comme, vous connaissez évidemment, comme Martin Franck.
Oh bah oui, qui est décédé, malheureusement.
Gérard Rondeau,
vous
connaissez.
J'aime beaucoup Gérard Rondeau. Non, il y a des gens comme Daniel Morzinski, qui est un vrai photographe. Qui a beaucoup travaillé sur les écrivains américains du Sud. C'est celui à qui il est arrivé une aventure terrible. C'est qu'il avait... Le Monde lui prêtait un local où il y avait une ou deux armoires à lui. Puis un jour, il y a des déménageurs qui sont arrivés, ils ont tout viré. Il a perdu 20 ans de travail, quoi. C'est affreux, hein. C'est l'horreur.
Ça,
c'est un grand photographe, un vrai photographe. Et puis, il y en a quelques-uns. Là, il y a une chose. Enfin, moi, j'ai un goût un peu spécial parce que quand je regarde une photo qui me plaît dans un journal, c'est souvent quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Alors, ça m'étonne. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est bien, ça? Puis, c'est pas moi. Je vais vous raconter une autre histoire. J'avais un garçon qui voulait travailler chez moi. Puis il m'amène un dossier. Je dis, disons, c'est vachement bien, ça, c'est bizarre. Quand même, il est jeune et tout. Alors, je lui dis, si c'est vous qui avez fait les photos, vous serez un photographe. Et c'est amusant parce que 15 ans après, on se retrouve dans un labo à Paris. Et il me dit, c'est moi à qui vous avez dit que... Et ça marche. J'étais très content. Parce que il y a énormément de gens qui veulent vous montrer leur boucle, leur truc et tout. C'est pas facile de dire à quelqu'un, vous pouvez vous engager là-dedans. Je vois toujours Robert Doisneau qui était très malheureux parce qu'il avait refusé à Gilles Caron de rentrer chez Raffo. Il dit peut-être qu'il serait pas mort parce qu'il aurait fait d'autres choses. Donc, c'est difficile de juger. Enfin, on voit si quelqu'un a quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On voit quand même s'il y a un souffle, s'il y a... On se rend compte quand même si une photo est intéressante ou si elle ne l'est pas, quoi. Je suis sûr que vous, c'est pareil.
J'imagine.
C'est bien. Même une photo, enfin, un type de photographie qui me, que je peux juger très... Bon, moi, j'aime bien Salgado. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai Salgado. J'aimais Robert Doisneau. J'aime beaucoup. C'est beaucoup mieux que ce qu'on connaît, Robert Doisneau. Parce qu'il y a énormément de photographies qui ne sont pas connues, qui sont très peu diffusées et qui sont très intéressantes, très humanistes, très... Parce que Robert Cartier-Bresson, c'est froid souvent, c'est très fort, c'est très intelligent, c'est très composé. C'est vrai, il avait comme un archer, c'est, tac, il voyait quelque chose. Et, bon, je l'ai vu travailler dans la rue. Mais il était aussi très manipulateur dans sa prise de vue. Parce que moi, je l'ai vu, il y a eu un défilé à Paris de jambes droites, etc. Puis il repère quelqu'un qui marchait un peu comme ça. Je l'ai vu, il s'est accroupi, il l'a transformé en fasciste. Bon, le gars, simplement, il marchait, quoi. Il y a aussi...
Oui, mais la photographie permet d'encenser, d'accompagner...
Ou de tuer.
Ou de tuer. Mais les mots aussi.
Oh, pff, terrible.
On est d'accord.
Oui, mais c'est, les vrais photographes, ils arrivent à manipuler aussi.
Et ça, c'est...
Il y a une chose que j'ai beaucoup respectée après, c'est quand on ramenait les photos d'Afrique et tout, puis on disait, tu sais, la pauvreté, c'est très photogénique. Et ça, ça fait réfléchir. Il faut toujours, si on fait une photo qui est belle, mais qui est prise dans un cadre justement de malheur, de pauvreté, il faut toujours que la légende soit très, très, très bien faite. Et...
Très précise.
Ouais. Tout ça, c'est très important.
Encore plus aujourd'hui, d'ailleurs. Encore plus aujourd'hui.
Ça, pour que la...
Tout à fait. Voilà. J'ai une dernière question concernant votre dernier livre, quand même, parce qu'on est là aussi pour présenter le livre. Il y a une centaine de portraits. Quel est le choix, en fait, éditorial de ce livre ?
C'était assez compliqué, parce que l'éditeur a voulu faire un livre un peu générique des écrivains de notre époque.
Oui.
Et alors, donc, il y a une époque, je voulais quand Éluard, ce sont des gens que je n'ai pas connus, que je n'ai pas photographiés, qui ont été mis dans cet ouvrage pour que les gens qui achètent ce livre aient une vue un peu panoramique de notre époque. Et c'est un professeur de la Sorbonne, qui est un grand spécialiste de Nîmes, qui a fait, le choix, et je n'ai pas eu trop à dire, d'ailleurs.
D'accord, donc c'est le choix n'est pas par rapport à vos photos, mais par rapport...
Si, par rapport les photos, si vous voulez, j'avais bien choisi un choix restreint des photos qui sont utilisées, mais l'ensemble, il y a des gens que j'aurais aimé voir figurer qui n'y sont pas,
d'accord,
et d'autres qui sont, je suis content qu'on les ait mis.
D'accord. Et,
C'est très compliqué, parce que c'est un livre qui se veut générique, un peu comme à l'époque le Bordas du XXe siècle. Quoi. C'est pour que les gens qui vont offrir ce livre à des étudiants ou qui vont l'offrir à des gens qui aiment la littérature, ils ne soient pas privés de Giono, de Céline ou de...
Ça, c'est plus sur la... Enfin, c'est plus, à votre avis, un livre qui est... tourner pour connaître les écrivains,
voilà,
moins à travers la photographie, à travers leurs portraits.
Oui, puis il y a des textes qui sont très très bien de Joseph Vébré, qui sont très drôles. Il y a des choix de textes qui sont très très bien faits, qui sont et puis il y a des, quand même, vous verrez si vous le feuilletez, il y a des photos qui sont très drôles, celles de Jules Romain, les photos de Gripari, les photos tout ça qui sont quand même très significative.
Ça fait.
Ils sont drôles.
Et dans la série, il y a un autre livre prévu, justement ?
Pour l'instant, non.
Non, d'accord.
Oh, je pense que je ferai un livre sur les poètes, parce que j'aime beaucoup la poésie. Et je vous encourage à la lire, parce qu'on est dans une époque de grands, grands poètes, de même qu'il y a une époque qui se termine, là, où on a eu d'immenses sculpteurs. Et c'est... Là aussi... Ils n'ont pas été très portés à la connaissance du public, quoi.
Vous avez de nombreuses photos de sculpteurs ?
J'ai quelques photos, oui, parce que j'ai été le photographe d'Arcurial à une époque. je voyais Madame Bettencourt une fois par mois. Mais moi, je ne suis pas Monsieur Bagné, donc je n'ai pas, j'ai pas piqué d'argent, Madame Bettencourt. Et non, elle a beaucoup soutenu les artistes avec Arcurial, puisque ça appartenait à L'Oréal. Et il y avait le directeur Landon, qui maintenant a fait un musée Étienne Martin, qui était un immense sculpteur. Il y avait des sculpteurs comme Cardot, Carton, César, tous. Et puis des sculpteurs suisses aussi. Enfin, les noms ne me reviennent pas tout de suite. Mais on a eu une époque fabuleuse. Et c'était pas très cher, en plus. Bon, je ne parle pas de Giacometti, qui a atteint des sommes. Mais c'était une grande époque de sculpteurs. Et il y a encore un très vieux sculpteur qui s'appelle Gaden, qui est dans le Nord. Mais c'est fabuleux, regardez sur Internet. C'est un vieux monsieur qui a peut-être 90 ans maintenant. Mais quel sculpteur! Je l'ai découvert parce que j'ai fait un livre sur les Flandres. Et j'ai vu, sur un plateau dans les Flandres, il y a un groupe de femmes. C'est pas du tout lisse, c'est magnifique, c'est fort, c'est superbe. Les grands sculpteurs, à Paris, il n'est pas connu. C'est scandaleux. Peut-être qu'à Bordeaux, hein. Je sais pas. Non, on a beaucoup de chance avec la sculpture. Et c'est... Voilà, il est... Parce que la peinture aussi, il y a des dérives terribles. Maintenant. C'est plus... Enfin, moi, c'est ce que j'aime, hein, je le dis. Chacun.
Est-ce que vous auriez, pour finir, un souvenir d'un moment incroyable avec un écrivain ou un philosophe, justement, qui sont dans le livre ou pas?
Oui, j'aimais beaucoup Lyotard, qui était un homme que j'ai eu des conversations formidables, qui est mort trop jeune. Et ça a été... Puis il habitait pas loin du Marais, là. On a eu une conversation très privée, donc je ne la reprendrai pas, mais c'était un souvenir fabuleux, parce qu'il s'était vraiment livré.
Et c'était sur l'écriture ou sur sa vie?
Sur sa vie.
Sur sa vie.
Ouais.
D'accord.
Un grand monsieur. Mais Philippe Jacoté, c'était le grand poète, ça a été une rencontre fabuleuse. J'étais avec mon épouse, là, qui est dans la salle d'ailleurs, Marie-Christine Douels, qui est écrivain, et qui a d'ailleurs fait un texte dans le livre. Et il nous a servi sous une tonnelle. Et puis quand je n'avais pas lu de Jacoté du tout avant d'aller le voir, et puis je rentre à Paris, on développe les photos, et mon assistant me dit, mais moi qui ai... Parce que c'était un garçon qui a fait après des études littéraires, et qui les avait déjà commencé. Il me dit, mais c'est fabuleux ta photo, c'est lui, c'est les semaisons, c'est extraordinaire. J'ai lu Jacoté. Et c'est un immense poète. D'ailleurs, mon fils, qui est aussi là dans la salle, par hasard, parce qu'il est à Bordeaux, alors que d'habitude il est à Cannes, et je lui fais lire Jacoté, il me dit, ah ça c'est bien, c'est pas de la poésie.
Vous avez peut-être des questions?
Est-ce qu'il y a un personnage que vous n'avez jamais pu photographier correctement?
Que je n'ai pas pu photographier du tout? Oui.
Non, mais, par contre, vous l'entendiez.
Ouais.
Bon. Des rendez-vous ratés, par exemple, ou des impossibilités à photographier?
Vos qualités de photo.
Ce qui a pu m'arriver, parce que la Hasselblad, c'est un très très bon appareil, mais ça ne prévenait pas quand ça tombait en panne. Alors, c'était une ou deux fois, j'étais obligé de refaire la prise de vue. Ça, c'est le... Puis une autre fois, ça a été terrible, parce qu'un copain qui développait mes films, qui me les amenait le samedi pour qu'on ne perde pas de temps, il les met dans la boîte aux lettres, et des voyous qui sont passés, ils ont piqué. Là, il y avait le travail de trois jours. Ils ont piqué les négatifs. Pour rien, quoi, parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors ça n'a pas été drôle. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie.
Donc vous avez dû refaire les prises de vue.
J'ai refait ce que j'ai pu. Mais ça, ça... Ah.
ça fait partie des mauvais souvenirs.
Ça ne peut pas partir des mauvais souvenirs. Ouais. Non, mais c'est vrai que, par exemple, si vous avez... Là où on peut avoir un souci, mais si un souci technique qui fait beau, vous emmenez la personne dehors si vous ne pouvez pas faire la photo intérieure. Vous voyez, si par exemple votre flash tombe en panne, ou parce que, enfin, moi c'est toujours par réflexion bien sûr, mais on peut avoir ce souci technique.
Quand,
ouais. Oh ben si, il y en a. Mais justement, ce qui est intéressant, si vous êtes un vrai photographe, c'est de rendre intéressant le visage de la personne.
C'est quoi être photogénique ou pas? C'est une vraie question, en fait.
Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un beau portrait? Même si la personne n'a pas un beau visage, mais si elle a un visage intéressant, intelligent, généralement, les gens intelligents, ils ont un beau regard, ils ont quelque chose, un port de tête, etc., même si le reste est moche. C'est vrai.
C'est vrai. Ce que dit Louis, moi, je trouve exact, c'est le lien que l'on crée entre deux personnes. Et en fait, être photogénique, c'est peut-être se lâcher ou se donner.
Hein. Ah, il faut être deux pour faire un portrait.
Voilà, il faut être deux.
Il ouais. faut que la personne
exactement,
adhère.
Exactement.
Si elle vous reçoit parce qu'il faut vous recevoir, ça, c'est difficile, quoi.
Voilà, merci beaucoup en tout cas.